J'ai refusé totalement cette
idée. Moi, j'ai essayé de vous remercier au catandrage. Je pense qu'on peut en combinant les deux, parce que je suis de mes trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, un deuxième mandat d'arrêt vient d'être lancé contre Bosco Ntaganda par le bureau du procureur de la CPI. Selon les termes de ce mandat, deux chefs d'accusation sont ajoutés, à savoir le viol et le meurtre. Le premier mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda concernait l'enrôlement d'enfants soldats. Ce mandat a été lancé en 2006. Il faudrait dire que ce nouveau mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda concerne aussi Sylvestre Nouda Soumoura, qui est commandant suprême des FDLR Turca, l'un des groupes rebelles les plus actifs dans les deux pays. Selon les Alaé, le bureau du procureur de la CPI demande aux forces congolaises et rwandaises de mener conjointement des opérations militaires pour traquer les deux suspects. Comment en réagissez-vous? Nous devons avoir votre point de vue concernant ce deuxième mandat d'arrêt. Nous avons invité pour vous Maître Dimitri Chatel, chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Thierry Lamézi, Nikom Daka, Guy Mantangou sont à la réalisation de cette émission. Marie Contabomba est à la présentation.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bambaka en canoë-kayak, construire les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Et si vous voulez participer à cette émission, vous avez trois possibilités. La première, c'est de nous écrire à l'adresse internet ca@radiocapi.net. Vous pouvez poster votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs ou encore composer le 081 890 63 15, 081 890 63 15. Notre invité est déjà en ligne. Bonjour, Maître Dimitri.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation pendant 57 minutes. Nous allons échanger sur cette question. Un deuxième mandat d'arrêt qui vient d'être lancé contre Bosco Ntaganda par le bureau du procureur de la CPI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui connaissez bien ce domaine, comme vous êtes chargé des programmes au niveau du Centre international pour la justice transitionnelle, est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs les raisons dans ce second mandat, parce qu'il y avait déjà un mandat en avance. Est-ce que c'est lié au fait qu'il ait commis d'autres actes après le lancement de ce premier mandat en 2006? Vous pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne pour qu'on ait un second mandat?
Merci beaucoup, madame. C'est assez simple. Mm-hmm. Lorsque le procureur mène des enquêtes, il lance les mandats quand il se rend compte qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour convaincre le juge d'accepter que ce mandat puisse être délivré à l'encontre de la personne recherchée. Dans les cas qui concernent Bosco Ntaganda, il disposait des charges en ce qui concerne le fait de recrutement et de l'utilisation des enfants de moins de 15 ans. Et maintenant, comme il a dit dans son communiqué, avec le procès Thomas Lubanga, il s'est certainement rendu compte qu'il existe des moyens de preuve pour les autres crimes que le présumé auteur avait commis dans le cadre du conflit en Ituri. Donc, il s'agit des faits, pas forcément des faits qui ont été commis après le lancement du premier mandat, des faits qui ont été commis même avant le lancement du mandat, mais pour lesquels le procureur dispose maintenant des moyens de preuve pour prouver devant la Chambre qu'il y a des raisons de croire que la personne qui est poursuivie, n'est-ce pas, a commis ces crimes.
Donc une personne peut être faire l'objet de plusieurs mandats d'arrêt.
Bien entendu, en fonction, n'est-ce pas, des faits qui lui sont reprochés et des moyens de preuve que le procureur, que le bureau du procureur peut réunir pour pouvoir, n'est-ce pas, les charger de nouveau avec des faits qu'il avait commis et pour lesquels on disposait peut-être pas en ce moment-là, lors du premier ou du deuxième mandat, de suffisamment de preuves.
Et je sais avec nous, nous allons écouter nos auditeurs, ils vont réagir face au lancement de ce deuxième mandat d'arrêt par la CPI à l'endroit de Bosco Ntaganda. Nous avons déjà confiance, ici à Kinshasa, et Maître Adrien à Kananga, et je sais que vous êtes très nombreux, chers auditeurs, à vouloir donner votre point de vue. Vous avez la parole.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Confiance.
Bonjour Marie Chantal, bonjour Radio Okapi.
Vous avez appris cette nouvelle, second mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda. Comment réagissez-vous Confiance?
Avec beaucoup de peine, parce que je sais voir qu'il y a toujours l'impunité qui est toujours là. Que ce soit au niveau national ou au niveau international, l'impunité est toujours là. Me demander comment je réagirais, je me suis toujours dit que un deuxième mandat d'arrêt contre Ntaganda n'aura aucun effet tant que le premier ne l'a pas été. Parce qu'il a été, il a été accusé de beaucoup de choses qui se sont passées entre l'année 2002 ou 2004, et le mandat est intervenu en 2006. Et quand même, il a tenu le coup entre 2006 jusqu'en 2012. Il est resté tranquillement sur un sol. Ça fait un peu mal.
Mais est-ce que vous ne pensez pas, sans faire confiance, est-ce que vous ne pensez pas que les choses ont quand même évolué? Parce qu'à l'époque, le gouvernement congolais avait donné sa position à l'endroit de Bosco Ntaganda. Il pensait que c'était une raison pour maintenir la paix, qu'il n'était pas nécessaire pour l'instant qu'il soit arrêté. Mais actuellement, le gouvernement congolais n'a plus la même position. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est assez différent?
Je ne pense pas que ça soit différent. Je pense que quand on traque un maltraiteur, il ne faut pas attendre qu'il tue encore plus de gens pour avoir les preuves de l'arrêter. C'est un peu ça ma façon de voir les choses. C'est pour les choses qui datent de plus de 10 ans, il n'a pas été inquiété. Au contraire, il a été primé, applaudi, et il est même inefficace. Il y a même des gens qui sont inefficaces contre lui.
Donc, à votre avis, un nouveau mandat d'arrêt ne va pas changer les choses, ça ne va pas avancer la lutte contre l'impunité, que ce soit au niveau national ou international. Merci, Confiance, de votre point de vue.
Ce sont les faibles qui arrivent à être appréhendés. Hein. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui est derrière Ntaganda. Qui est-ce qui lui donne des armes? Qui donne des armes à Ntaganda? Qui est son parrain? Il suffit seulement que ce parrain ne soit pas signataire des accords qui d'extradition, par exemple, et que quand il se sentira vraiment menacé, il ira seulement dans un pays où ce pays-là n'est pas son pays, où ce pays-là n'est pas signataire des accords qui peuvent faire en sorte qu'on l'extrade, et ce pays va rester tranquille comme Nkunda Bakar, et quelle est l'histoire d'un Nkunda Bakar aujourd'hui?
Merci, Confiance de Kinshasa. C'est votre point de vue concernant la question. Nous prenons Maître Adrien de Kananga. Bonjour, Maître Adrien.
Bonjour, madame.
Nous vous écoutons. Quel est votre point de vue?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais aborder presque dans le même ordre d'idée que mon prédécesseur, mais cette fois-ci avec des analyses plus juridiques et politiques. Madame, vous êtes sans ignorer que lorsque le deuxième mandat a été lancé, il y a eu un point de presse qui était tenu par le secrétaire général du PPRD qui s'opposait pour lui. Il faut que M. Ntaganda soit jugé à RDC. Or, juridiquement parlant, il se pose déjà un problème parce que là, c'est le peuple qui dirige le pays, il y a une certaine opposition, donc qui dirait la justice congolaise prête à tout prix juger M. Ntaganda. Je me demande comment est-ce que la CPI pourra maintenant procéder dans cette manière-là. Parce que la CPI ne peut intervenir que lorsque la justice congolaise manifeste une certaine insuffisance pour certaines incapacités hors. À l'heure actuelle, le peuple belge s'oppose. Là, c'est le premier problème. Le deuxième problème, et ça, je pense que le gouvernement congolais doit se mordre les doigts. Parce qu'il avait la possibilité d'arrêter M. Tadam lors du premier mandat. On a semblé nous dire que pour raison de sécurité, nous les protégeons. Or, aujourd'hui, avec le deuxième mandat, Madame Chantal, je me dis, M. Là risque de faire du n'importe quoi à l'Est. Parce qu'il y a un danger qui les guette. Il va se dire que non, je fais tout faire et puis je peux aussi me donner la mort pour éviter la justice. Parce que lui-même, lors de son point de presse, il a dit, il va se battre jusqu'à la dernière énergie pour donner la paix à la justice donc, internationale.
Oui,
et donc, nous sommes en train de nous demander qu'est-ce que ce monsieur entend dire dans ce sens-là.
S'il vous plaît, Adrien, avant que vous puissiez poursuivre, juste au début, vous avez fait allusion au PPRD, un parti politique dans la traque de votre propagande. Vous pensez que cela ne va pas aboutir, mais est-ce que le fait que le gouvernement congolais ait changé de position par rapport à pouvoir arrêter Bosco Ntaganda et même fait des propositions pour qu'il soit jugé au niveau national, est-ce que cela ne montre pas cette volonté de pouvoir mettre fin aux actions qui sont menées par Bosco Ntaganda?
Donc c'est cela que je disais, parce que le PPP a réagi juste après le deuxième mandat lancé. Donc c'est pour vous dire que, dans d'autres termes, le PPP s'oppose contre le transfert de M. Tadam. Parce que là, je me demande comment la justice internationale, donc la PPP, pourra s'entendre. Parce que là, nous serons participer dans un conflit de compétences. Donc la question de la justice nationale et la justice internationale, là, ce n'est pas mon problème. Maintenant, sur le plan politique, la c'est impossible, plus difficile pour arrêter ce monsieur qui se retrouve maintenant dans le parc de Kirunga. Vous savez, c'est un terrain difficile, c'est presque là où tous les rebelles se cachent. Je me demande comment est-ce que le gouvernement congolais, qui se retraite aujourd'hui, pourra faire, pourra mettre les moyens à même pour agir pour récupérer ce monsieur qui se souverait déjà. Je pense que la voilà,
c'est
que
sont des inquiétudes
présentement.
Merci Adrien de Canada. C'est la manière dont vous êtes en train d'analyser ces faits. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour Ernest.
Bonjour.
Oui Ernest, nous vous écoutons.
Merci bien. Je crois que Bosco Ntaganda ne fait pas la guerre à une incompétence. C'est la guerre au gouvernement et ils sont des cousins. Il faut prendre le texte. Vous avez des gouvernements de Kinshasa. Ils connaissent depuis la fidèle justice du jour. Et il y a une question. Nous ne sommes pas comme nous sommes très loin de Kivu. On ne sait pas ce qu'il veut réellement. Sauf à l'image de l'information. C'est ce que nous connaissons. Lorsque, en 2006, on lance le mandat d'arrêt contre le Bosco Ntaganda, et qu'il faut que nous a un mandat d'Iran, n'a pas eu le temps de tomber du son au son de la paix. Mais aujourd'hui, pour s'expliquer, il s'agit. Ça a été à Goma, on l'a vu. Un nommé de ce quoi général dans l'armée nationale congolaise. Vous comprenez que c'est vraiment une histoire qu'on ne comprend pas à saisir nous, la population congolaise. Et il a été dit parce qu'il y a son prédécesseur, son patron aussi direct, qui est le cas au Rwanda. Personne n'a jamais voulu effort de réussir les rapatriés, et qu'on refuse rapatrier ce type qui est aujourd'hui au Rwanda. C'est librement. Donc, tout ça, le gouvernement n'a pas collaboré avec la CPI et il y a eu un problème entre les deux institutions. Donc, lorsque les PPRD ont arrêté de tomber le juge par les Congolais, nous pensons qu'ils ne veulent pas qu'une condamnation soit arrêtée par la Cour pénale nationale, qu'ils soient jugés et dévoilent le secret de ce conseil de justice de police, que ce qui pourrait se soutenir. Donc, on a une certaine vérité. Et nous pensons. Pour des raisons d'intérêt, on ne peut pas cajoler un assassin, un criminel de grand crime comme celui-là. Le gouvernement doit tout faire, mais tomber sur cet homme et le donner à celui qui peut tout finir d'acheter pour nous et ne pas être capable de juger des criminels comme ça. La police nous aide. Donc, on laisse ce type. Mais justement, il est critiqué et arrêté parce qu'ils savent où se cache. Il est dans la forêt là-bas. Lorsqu'il sera très faible, on va lui donner ce que c'est le tuer. Lorsqu'il sera très fort, il va réduire les armes au niveau des militaires pour qu'il se reconstruise des forces.
Donc, à votre avis, ce sont les méthodes qui sont utilisées. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas tellement de volonté à pouvoir l'appréhender.
Je crois qu'il est difficile d'appréhender parce qu'entre mes amis, ils se connaissent le téléphone, ils ont les numéros, ils se prennent cette position, moi je prends cette position, je suis à cet endroit, envoyer les militaires de l'autre coin pour qu'ils ne soient pas arrêtés. Sinon, le Rwanda n'aura pas le temps de se faire aller au niveau de Kinshasa pour que Kinshasa l'amène à la Cour supérieure au Pays-Bas. Donc, c'est vraiment difficile qui ne peut être maire que ces gens soient en train de donner. Parce que tout le monde, ceux qui doivent se faire arrêter, sont des femmes rwandaises, sont des cousins et des cousines des Rwandais.
Voilà. Est-ce que vous pensez que ça a lié aux origines ou bien c'est les actes qu'il est posé? Vous ne pensez pas que c'est lié plutôt à ses actes et non à ses origines?
Oui, les actes que j'ai dit, ce sont des cousins qui se battent. Afdel, Laurent Kunda, Bosco Tangana, mais ce sont des cousins et cousines.
Merci. C'est votre point de vue, Ernest de Matadi. C'est votre analyse que vous êtes en train de faire concernant la situation qui se déroule actuellement à l'Est, mais aussi du fait qu'il y ait un deuxième mandat d'arrêt qui a été lancé contre Bosco Ntaganda par le procureur de la CPI. Nous prenons Kamate de Boutembo. Ensuite, nous allons lire quelques messages, mais nous disons à tous nos auditeurs qui nous ont écrit, que ce soit à travers @radiocapi.net ou encore qui ont posté leur avis sur la page Facebook, que nous avons certaines difficultés à pouvoir lire leur message, tellement qu'il y a des abréviations et que c'est difficile de pouvoir savoir ce que la personne veut dire. S'il vous plaît, veuillez écrire en tout mot, cela pourra nous permettre de bien ressortir la pensée que vous avez en écrivant votre message. Ernest, plutôt, c'est Kamate de Boutembo, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour à tous les auditeurs et à la ville.
Oui, Kamate, vous avez la parole.
Pour moi, je crois que ce nouveau mandat d'arrêt là, c'est contre Bosco Ntaganda.
S'il vous plaît, Kamate, on a l'impression qu'il y a du vent qui frappe dans votre téléphone. Si vous pouvez vous mettre à contre-vent, comme ça on pourra mieux vous écouter, il n'y aura pas ce bruit désagréable au niveau de l'antenne. Mais entre-temps, je veux lire ce message de Junior Solé, qui souhaite qu'il fait ça. C'est bien bon de lancer des mandats d'arrêt, mais pourquoi pas que cela se passe d'une manière discrète, comme c'était le cas de Thomas Lubanga et de Jean-Pierre Bemba. Il se pose des questions. Pourquoi les mandats d'arrêt contre Bosco Ntaganda sont médiatisés à ce point-là? Il y a Yves Mouroula. Pourquoi un premier mandat n'a pas été exécuté? Il se pose des questions. Billy Amici, qui se trouve à Kisangani. C'est une distraction que la CPI nous fait là. Comment doit-elle demander au Rwanda d'arrêter Bosco Ntaganda alors que Kunda Batware, qui est aussi sous mandat d'arrêt, réside bel et bien au Rwanda? Et la CPI le sait, qu'elle commence d'abord à demander l'extradition de Kunda avant de demander Bosco Ntaganda. Le gouvernement congolais l'a laissé en liberté avec toute sa milice dans son fief. S'il est vrai qu'il voulait l'intégrer dans l'armée, pourquoi ne pas muter ailleurs, comme on a fait pour les autres chefs de guerre? Comme ça, il n'aurait plus le pouvoir d'agir, mais on l'a laissé dans son fief avec ses troupes dans un territoire qu'il estime conquis. Ni le Rwanda ni la RDRC n'arrêteront Bosco Ntaganda, car tout le monde sait là où il est et personne ne le recherche là-bas. C'est le point de vue de Billy Amici qui se trouve à Kisangani.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons à notre invité, Maître Guy Mouchafer, chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Maître Mouchafer, vous avez suivi nos auditeurs. C'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas cette confiance en la lutte contre l'impunité, et ils estiment pour la plupart qu'un deuxième mandat d'arrêt ne va pas résoudre les choses, on ne pourra pas appréhender Bosco Ntaganda. Commençons d'abord par Maître Adrien de Kananga, qui estime que la position du gouvernement, qui pense qu'il pourrait juger Bosco Ntaganda au niveau des instances nationales, peut mettre un conflit, peut créer un conflit de compétences avec l'intention de la CPI, à part son mandat d'arrêt, de pouvoir le juger sur le plan international. Quel est votre point de vue à ce propos?
Merci beaucoup, madame.
Le problème que pose mon confrère est un problème qui est lié à ce qu'on appelle la question de l'admissibilité d'une affaire devant la Cour pénale internationale. Et cette question se trouve réglée dans le statut, n'est-ce pas, de Rome, et dont vous savez que la RDC, n'est-ce pas, est signataire.
Mm-hmm.
Et ce statut prévoit des dispositions pour régler ce genre de problème. Comme c'est la CPI qui a lancé le mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda, et au moment où la République démocratique du Congo, tout autre pays et État parti au statut de Rome, souhaite, n'est-ce pas, pouvoir juger son ressortissant ou la personne qui a commis des crimes sur son sol, il y a une procédure. Cette procédure veut que le pays fasse une démonstration devant la Cour pénale internationale qu'elle réunit les conditions de pouvoir réaliser par ces juridictions un procès équitable, c'est-à-dire un procès qui répond aux standards internationaux concernant les droits de l'accusé, les droits des victimes, l'égalité, n'est-ce pas, des armes et tout autre élément, n'est-ce pas, qui concourt à la réalisation d'un procès qui soit équitable. Et la RDC doit faire la démonstration de sa capacité, donc, à pouvoir conduire un procès en répondant à ces critères-là.
Mmh.
Personnellement, je pense que, sans en polémiquer, je pense que lorsque la République a renvoyé la situation devant la Cour pénale internationale, une des raisons qui avait été évoquée, c'était l'incapacité de notre système judiciaire à pouvoir se saisir, n'est-ce pas, de ces cas complexes, de ces cas de crimes graves qui ont été commis dans les temps et qui demandent beaucoup d'expertise, qui demandent beaucoup de moyens pour arriver finalement au dénouement d'un procès qui soit un procès satisfaisant, qui répond donc, comme je le disais tantôt, aux critères recommandés par le droit international. Là, je laisse à tout un chacun, à notre ami, comme aux autres auditeurs, à pouvoir juger si, à l'heure actuelle, notre système judiciaire a-t-il acquis des capacités pour pouvoir conduire un procès qui soit un procès digne, un procès équitable, qui réponde aux normes internationales requises dans les domaines. Vous savez, madame, que l'année passée, le gouvernement avait entrepris des démarches pour pouvoir instaurer ce qu'on a appelé une initiative de chambre mixte ou une juridiction spécialisée mixte. Mais malheureusement, le processus n'a pas abouti. Et le but, c'était justement de disposer en interne d'une juridiction qui ait des capacités et des compétences ainsi que des moyens pour pouvoir conduire des procès complexes, des procès de cette nature. Mais je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si la condition ou le problème qui avait été posé pour justifier le renvoi de la situation de la RDC devant la Cour pénale internationale par nos propres autorités, si ces problèmes-là ont été décantés. Chacun peut donc arriver à faire son analyse pour pouvoir donner une réponse adéquate à ce problème.
Oui, restez avec nous, Maître Dinouchata. Nous avons en ligne M. Patrick Tsiboui, qui est assistant chargé de sensibilisation au bureau de la CPI en RDC. Bonjour, M. Tsiboui.
Bonjour.
La première série d'auditeurs que nous avons reçus se pose beaucoup plusieurs questions concernant le fait que le gouvernement congolais ou parce que le bureau du procureur de la CPI a demandé aux forces armées congolaises et rwandaises de mener conjointement des opérations militaires pour traquer les suspects, notamment Bosco Ntaganda et ainsi que Sylvestre Tumura. Et les auditeurs se posent des questions. Est-ce qu'en fin de compte, on pourra arriver à appréhender ces personnes-là, du fait qu'il y a déjà eu un premier mandat d'arrêt, il n'a pas pu être exécuté, maintenant second mandat d'arrêt, à votre avis, quelle garantie pour que ces personnes soient arrêtées?
Oui, merci beaucoup pour la question de tous les auditeurs, mais je pense qu'il est important de préciser quelques éléments fondamentaux. Premièrement, il s'agit ici d'une demande de deux nouveaux mandats d'arrêt par le procureur de la Cour pénale internationale. Nous n'avons pas encore de mandat. C'est une demande qui émane du procureur de la Cour pénale internationale. Dans l'organisation de la Cour, celui qui mène les enquêtes, qui identifie qui sont, qui seraient les suspects potentiels faisant, pourront faire l'objet d'un mandat d'arrêt, c'est le bureau du procureur. Mmh. Et le procureur lui-même ne délivre pas le mandat d'arrêt. Il vient demander la délivrance du mandat d'arrêt à des juges qu'on appelle les juges de la chambre préliminaire. Et dans le cas d'espèce, nous avons une demande faite par le procureur de deux nouveaux mandats d'arrêt, et cette demande sera donc examinée par le juge de la chambre préliminaire, et ce sont ces juges-là qui vont rendre une décision, soit accepter de délivrer le mandat d'arrêt ou pas. Mais évidemment, le procureur a voulu rendre cette demande publique, pour, comme l'a dit dans sa déclaration, essayer un peu d'inciter et de démobiliser un peu les personnes qui pourraient avoir ou susceptibles d'avoir le même comportement que les personnes pour lesquelles elle a demandé le mandat d'arrêt. C'est pourquoi c'est une déclaration qu'il a faite publique demandant ces deux mandats d'arrêt. Donc nous n'avons pas encore de mandat d'arrêt actuellement. Mais il est vrai que pour le cas d'espèce de M. Bosso Tanganda, étant donné qu'il y a déjà un premier mandat d'arrêt contre à son égard, délivré par le juge de la chambre préliminaire, le procureur rappelle, comme il a toujours l'habitude de le faire, rappelle aux différents États de pouvoir contribuer à l'exécution de ce mandat d'arrêt déjà délivré par les juges. Mais pour le second mandat d'arrêt, nous devons attendre ce que vont dire les juges, ce sont eux seuls qui pourront ou non délivrer le mandat d'arrêt contre Bosco Tanganda et l'autre suspect qui est chef des fédélaires, Foka.
Oui, nous savons également que la CPI n'a pas de police ni même d'armée et tout se base en fait sur la bonne foi des États. Nous savons également que le Rwanda n'a pas signé le traité ou la convention qui crée la CPI et vous demandez au gouvernement, aux forces armées rwandaises de pouvoir participer conjointement avec les forces armées congolaises pour pouvoir traquer, ce sont des demandes en attendant le mandat d'arrêt, mais c'est déjà fait. Est-ce que vous pensez que cela pourra s'exécuter?
C'est vrai que l'exécution de mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale sont butés à un problème qui consiste au fait que la Cour n'a pas d'armée, n'a pas de police, donc elle dépend des États. Mmh. Et ça, c'est une décision qui avait été prise par les États qui ont créé la Cour, qui ont refusé de reconnaître à la Cour cette prérogative de procéder elle-même à ses propres, à des arrestations par son propre personnel. Les États qui ont créé la Cour ont accepté de mettre à disposition de la Cour leur armée, leur police pour pouvoir exécuter le mandat d'arrêt. Ça, c'est une obligation qui repose premièrement sur les États qui ont ratifié le statut, les États qui ont reconnu la Cour pénale internationale. Mmh. Mais pour les États qui n'ont pas ratifié le statut, le statut dit que rien n'empêche, ça peut être le Rwanda ou d'autres pays qui n'ont pas ratifié le statut dit que rien n'empêche pour les États non partis de pouvoir aider à l'exécution des mandats d'arrêt. Et d'ailleurs, le statut de Rome dit qu'il y a possibilité de signer des accords avec les États non partis qui pourraient apporter leur soutien dans l'exécution des mandats d'arrêt. Donc un État non parti peut également prêter assistance à l'exécution d'un mandat d'arrêt. Mais ce n'est pas une obligation qui pèse sur lui parce qu'il n'a pas ratifié le statut. Mais il peut, lorsqu'il estime que les valeurs pour lesquelles le mandat d'arrêt ont été délivrés, il peut y assister, il peut le faire. Comme aussi la Cour peut formellement avoir des accords avec des États non partis pour l'exécution des mandats d'arrêt. Donc ce n'est pas impossible ou ce n'est pas contradictoire qu'un État non parti puisse exécuter les mandats d'arrêt. Mais ce n'est pas principalement une obligation qui repose sur lui en tant qu'État non parti. Mais pour les États qui ont ratifié, ils ont l'obligation d'exécuter le mandat d'arrêt. C'est une obligation. Si vous ne vouliez pas ratifier, exécuter le mandat d'arrêt, vous n'aurez pas ratifié. Du moment que vous avez ratifié, vous devez exécuter le mandat d'arrêt.
Et une dernière question, c'est celle de savoir parce qu'il y a des auditeurs qui estiment que le fait, par exemple, que Bosco Tanganda soit vraiment qu'on le traque jusqu'à son dernier retranchement, qu'il puisse se retirer, qu'il puisse aller se réfugier au Rwanda. Est-ce que nos auditeurs se posent des questions? Est-ce qu'ils arriveront à pouvoir l'appréhender? Ils ont même soulevé le cas de M. Laurent Kunda, qui jusqu'à présent on n'a toujours pas pu l'appréhender.
Le cas de M. Laurent Kunda, il faudrait préciser que M. Laurent Kunda ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Mmh. Donc, sur ça, il faut être clair là-dessus. Il n'y a pas un mandat d'arrêt de la Cour contre M. Laurent Kunda. Mais pour ce qui est de M. Bosco Tanganda, de toutes les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, du moment que les crimes ont été commis sur le territoire d'un État parti, du moment que l'auteur serait ressortissant d'un État parti, si cette personne va se réfugier dans le territoire d'un État qui n'a pas ratifié, c'est vrai que principalement cet État qui n'a pas ratifié n'a pas l'obligation d'exécuter un mandat d'arrêt. Mais cela n'empêche pas que la Cour puisse échanger, discuter avec un État non parti pour que cet État dans lequel se retrouve une personne qui aurait commis un crime de la compétence de la Cour, que cet État puisse exécuter ce mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Donc ce sont des situations qui sont prévues par le statut, que le statut a prévu en disant que l'on peut avoir des accords avec des États non partis pour exécuter des mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale. Et dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour, même si vous venez vous réfugier sur le territoire d'un État qui n'a pas ratifié, à vrai dire, vous êtes en train d'une sorte de prison à ciel ouvert, parce que vous êtes censé maintenant, pour l'entièreté de votre vie, vous réfugier sur ce territoire-là. La raison pour laquelle la Cour, d'ailleurs, sollicite, lorsqu'elle a délivré des mandats d'arrêt, demande aux individus qui font l'objet de mandats d'arrêt de venir d'ailleurs eux-mêmes se livrer à la Cour pénale internationale. Parce que vous avez une sorte de paix de Damoclès sur vous, et vous, c'est vrai, à un moment donné, vous pouvez être dans un État qui n'a pas ratifié, ayant ce sentiment plus ou moins de sécurité, mais ce mandat continue à courir. Et les crimes sur lesquels porte ce mandat sont des crimes imprescriptibles. Et seules les personnes qui ont délivré ce mandat, notamment la Cour, peuvent retirer ce mandat. Donc, vous avez plus intérêt vous-même, qui faites l'objet d'un mandat d'arrêt, de vous livrer à la Cour pénale internationale, parce que ce mandat vous suivra où que vous soyez, d'autant plus que ces crimes sont imprescriptibles.
Merci beaucoup, M. Patrick Kivouli. Je rappelle que vous êtes assistant chargé de sensibilisation au bureau de la CPI en RDC. Nous gardons notre invité, Maître Dino Chiatta, qui est chargé du programme Lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle, pour la suite de cette émission.
C'est parce que Radio Kapéni et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapi.net.
Élisée Lepété, qui se trouve à Butembo, nous écrit ceci. Les forces armées rwandaises et congolaises en particulier doivent rester fermes en ce terme et faire tout pour pouvoir appréhender Bosco Ntaganda. Héritier Atantama nous écrit ceci. Une question reste à savoir pourquoi Bosco a été protégé par le gouvernement congolais pendant près de 3 ans et maintenant il est sous un nouveau mandat d'arrêt international. Ne savait-il pas qu'un accord signé sans avoir sa réalisation produirait les mêmes effets précédents? Donc la question que se pose Héritier Atantama, il ne nous a pas dit d'où il nous écrivait. Est-ce que vous êtes à faire un bonjour?
Bonjour madame Alexandra.
Oui, nous vous écoutons une fois.
Oui madame. Moi, j'ai eu ceci. La CPI est entrée dans une pièce théâtrale d'autrui, de la RDC. Ça, c'est une pièce théâtrale. La CPI n'a pas de rôle, mais quand même, il veut s'en procurer. C'est-à-dire quoi? L'État congolais a protégé le Bosco Ntaganda là qu'on recherche. Mais pour l'État congolais, Bosco Ntaganda, c'est un chiffre perdu. Prenons même par exemple ce que les partis gouvernent de tout ce qui est radio. Nous devons juger Bosco Ntaganda sur le sol congolais. Et la seule chose que la CPI le mandat, pour moi, je m'attends à un 10e mandat que la CPI va toujours lâcher et Bosco Ntaganda ne sera jamais livré. Parce que, comme c'est un chiffre perdu, même dans la Bible, on recherche le chiffre perdu, peut-être pour le punir, peut-être pour le protéger. Et tout ce qu'on a à dire, ce n'est qu'une pièce théâtrale, et chacun joue un rôle bien déterminé, et la manifestation est que le gouvernement ne veut jamais et ne pourra jamais livrer Bosco Ntaganda. C'est ce que moi je crois.
Merci, Espoir. N'oublions pas qu'il verra, attendant ce qui va arriver, mais vous êtes pessimiste, vous estimez qu'on ne pourra pas appréhender Bosco Ntaganda par les forces armées congolaises. Mbouyamba, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal.
Vous êtes un bousinien et nous vous écoutons.
Le nouveau mandat d'arrêt sur Bosco et les autres sollicités par la CPI est une démarche visant au maintien de la paix tout au long de la frontière Rwanda, Burundi et Ouganda. En ce qui concerne le nouveau mandat, je me demande pourquoi le gouvernement n'avait pas livré M. Bosco pour être jugé par la CPI au premier mandat. Parce qu'il a fait 3 ans avec le gouvernement. Et le gouvernement devait intervenir pour aider la population, victime surtout toutes ces femmes qui sont violées chaque jour, je passe. Nous devons savoir que les Nord-Kivu et les Sud-Kivu ne sont et resteront toujours la République démocratique du Congo. Si le pouvoir exécutif, mais c'est surtout législatif, se trouvant à Kinshasa, en train de se dissouer, se tirailler sur les postes de commission et qu'on sort une distraction terrible, mais c'est vraiment déplorable. On devait tourner les regards vers l'Est. Parce que les femmes sont violées, il y a des peines, il y a de la délocalisation, il y a des réfugiés à Luganda et au Rwanda, suite à cette guerre. Alors, je demande à l'Organisation des Nations Unies, à la MONUSCO, qui est là, à la démocratie du Congo, bientôt 17 ans ou plus, au pays, il est là pour la paix, pour la sécurité, mais il n'agit pas. Et la MONUSCO devrait agir, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a même tué les agents de la MONUSCO par ces gens-là. Hein? Comment jusque-là, la MONUSCO doit rester observateur? Non, la MONUSCO doit agir pour sauver la population congolaise. Pour terminer, j'interpelle la communauté internationale à tous les niveaux à s'impliquer dans cette affaire de l'Est, en particulier, et de la République démocratique du Congo en général. À la société civile, de chercher la force de la neutralité et être vraiment une force d'oppression face aux résistants de Kinshasa. Mmh. Voilà un peu ce que j'avais à dire.
Merci Mbuyamba. La MONUC, la mission onusienne en RDC, à 13 ans et non 17 ans en RDC. Et cela n'empêche, vous avez donné votre point de vue, ce que vous pensez qui devrait être fait concernant la lutte contre l'impunité, mais surtout la qu'on puisse arriver à pouvoir mettre aux arrêts Bosco Ntaganda. Mais vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour maman Marie Chantal Lomba.
Nous vous écoutons très bien.
Madame, si on voudrait un peu essayer d'analyser cette question, nous devons dire que derrière Bosco Ntaganda, il y a quelqu'un qui est derrière lui. Comment ça fait-il qu'aujourd'hui nos frères et sœurs souffrent à l'est du pays et combien il y a de déplacés à cause de ce monsieur-là? Le premier mandat qui a été lancé contre lui, le gouvernement, par le biais du secrétaire général du PPRD, a essayé de protéger Bosco Ntaganda pour dire que nous avons beaucoup de problèmes au pays, on ne peut pas les livrer. Voilà encore le deuxième mandat qui vient d'être lancé. Nous allons dire que tout ça, c'est une façon seulement de nous mettre de la poudre aux yeux. Ce n'est pas question qu'on est pessimiste, mais plutôt qu'on est réaliste et qu'on dit la vérité par rapport à ça. Comment ça fait-il qu'il est toujours procédé jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il est en train de mener des choses, des choses à l'est du pays, et le gouvernement est là sans dire quoi que ce soit, donc ça veut dire qu'il est protégé.
Vous comprenez un peu, madame? C'est la question que vous avez, qu'il est protégé. Merci Freddy, je rappelle que vous êtes ici à Kinshasa. N'oublions pas que quand même les choses ont évolué. Nous avons pas le premier mandat. S'il vous plaît, Freddy, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur qui est à côté de vous? Je disais que tout juste quand le premier mandat a été lancé, le gouvernement congolais avait sa position dans le cadre de la paix. Ils estimaient qu'il n'était pas, c'était pas le moment de pouvoir appréhender Bosco Ntaganda. Mais maintenant, les choses ont évolué. Il y a même certaines actions qui sont menées par les FARDC pour pouvoir appréhender Monsieur Ntaganda. Et donc, il y a des choses qui ont changé. Et nous avons eu la précision avec le représentant de la CPI qui est chargé de la sensibilisation, qui nous expliquait que ce n'est encore qu'une demande d'un second mandat. Donc, il faudrait attendre que les personnes qui sont compétentes puissent effectivement lancer ce second mandat. Merci beaucoup, Freddy. De Kinshasa. Nous avons les chefs Kabamba qui se trouvent à Bukavu qui nous écrit ceci. Le premier mandat n'a pas été exécuté. Est-ce qu'on est sûr que la demande d'un second mandat pourra réussir? Ce sont encore des inquiétudes de nos auditeurs. Amici, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, madame.
Et nous vous écoutons, Amici.
Madame la journaliste, j'aimerais d'abord faire une observation. Au premier mandat de la majorité, il y avait un mandat contre Bosco Ntaganda. Moi, j'étais à Goma, à Uvira, à Rutshuru, un peu partout là-bas. Je voyais Ntaganda était armé jusqu'au gars. C'était le seul général qui était bien armé. il était bien escorté. C'est comme un président qui marchait qui s'est déplacé à Goma. Madame, ce que je n'arrive pas à comprendre, le gouvernement, est-ce que Taganda seul peut sécuriser le Congo? Taganda seul peut être le seul général qui peut être important pour mettre le Congo en paix? Nous avons combien de généraux d'abord? Qui est d'abord indiqué, nous parle d'abord le nombre de généraux au Congo. Alors, madame, moi je touche le gouvernement congolais, c'est-à-dire la majorité, et Taganda ont changé de stratégie. Pour fuir Taganda, il faut dire non, car Taganda, armez-vous, fuyez, c'est cela, il n'y a pas moyen de faire ce que vous livrez à la CPI. Alors, nous demandons seulement au gouvernement congolais. Et qui cesse de nous distraire. Nous sommes intelligents. Qui est ce gouvernement puisse penser qu'il a trouvé des universités au Congo? Et tous ces Congolais sont des voyous. Nous savons faire des analyses pour plus de la paix de notre pays. Le gouvernement congolais est responsable de la fuite de Taganda. C'est un changement de stratégie. Qu'on aille seulement prendre Taganda, qu'on présente Taganda à la CPI. Voilà, aujourd'hui, Taganda était dans le cadre de l'opposition. Taganda, on allait présenter Taganda sans problème. Comme Taganda était derrière la majorité, c'est pourquoi il y a tout ça. Il y a les gens qui sont à la CPI. Il y a Jean-Pierre Mbemba. Comme Jean-Pierre Mbemba était de l'opposition, c'est pourquoi on a vu livrer Jean-Pierre Mbemba. L'autre là de Ituri, comme il était de l'opposition, là, il
n'y a pas du tout.
Mais là, aujourd'hui, Taganda est de la majorité, on ne va pas les livrer.
S'il vous plaît, monsieur.
Alors, je mets compris un petit peu ce qui se passe à l'aide. C'est comme une femme là qui veut mettre de l'eau dans un tamis. Voilà, vous allez voir qu'on va conserver de l'eau dans un tamis. C'est comme à l'Est. Le groupe, toutes nos frontières là-bas sont contrôlées par ces gens-là. Le groupe de Taganda, tous les démons qui sont là-bas sont les frères de Taganda. Tous les militaires qui sont là-bas sont les militaires de Taganda. Comment vous voulez dire que voilà, on va arrêter Taganda? On ne doit pas arrêter Taganda. On ne doit pas livrer Taganda parce que Taganda s'est déjà caché dans la forêt. Et on doit le ratifier là-bas. On doit lui faire tout le nécessaire pour qu'il puisse vivre.
Oui, s'il vous plaît,
voilà, madame.
J'espère que c'est une émission d'échange. Vous avez déjà donné votre point de vue. Vous insinuez que le gouvernement ne fera aucun effort pour pouvoir arrêter Bosco Taganda. Et vous avez démontré à votre façon votre analyse de voir les choses. Mais de là, à votre avis, que faire maintenant pour lutter contre cette impunité, lutter, mener des actions pour pouvoir qu'il y ait cette confiance qui puisse renaître dans la population congolaise et que tous ces actes où sont victimes toutes ces populations, à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait?
Ok, madame, à l'Est, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire pour lutter contre l'impunité? Il faut d'abord bien encadrer l'armée et la police. Et ensuite, mettre des moyens à la justice congolaise. Hein? Ce sont des gens qui ont étudié quand même. Comment t'expliquer un militaire qui touche ses 40 000 francs? Il peut mettre sa vie en danger à cause de 40 000 francs. Et à Goma, il n'y a pas de camp militaire. Ils vivent sous bâche. Hein? Et il y a d'autres leurs familles. Il faut commencer d'abord à mettre la population, les militaires et les policiers dans de bonnes conditions. Et ensuite, prendre la justice, les parquets, les cours des tribunaux sont là pour les encadrer. C'est tout.
Merci Amici. Je rappelle que vous intervenez de Kindu, c'est dans la province du Maniema. Et nous poursuivons cette émission. Il nous reste environ 17 minutes avant la fin de cette émission, plutôt 13 minutes avant la fin de cette émission. Si vous voulez participer, deux possibilités. Nous écrire à pa@radiocapi.net ou encore composer le 081 890 63 15.
Parole aux auditeurs.
Et nous redonnons la parole à notre invité, Maître Guy Mouchata. Vous avez suivi cette deuxième série d'auditeurs. En tout cas, on sent en eux le pessimisme. On ne croit pas qu'un jour Bosco Taganda sera jugé. Il y a même d'autres qui ne croient plus et qui n'ont pas confiance en l'appareil judiciaire, que ce soit au niveau international qu'au niveau national. Mais que faire? Parce que, en fait, dans un milieu, dans une société, lorsqu'il n'y a pas la justice, c'est assez difficile de réguler les choses. À votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour redonner confiance en cette population, en fait, à nos auditeurs qui sont intervenus?
Oui, madame. Effectivement, il faut confirmer d'abord les principes que
il n'y a pas de pression à la justice et qui nous fait qui est fondé sur l'absence de la justice ou sur une justice imparfaite et nécessairement appelée à ne pas à perdurer. Et une fois ce principe donc affirmé, il est clair qu'on n'a pas de choix et de pouvoir non seulement arrêter Bosco Ntaganda, le traduire en justice, mais aussi poursuivre tous ceux qui ont commis des crimes, que ce soit dans les Kivu, mais aussi dans les autres parties du pays. Il faut nécessairement mettre ces gens-là hors d'état de nuire, qu'ils répondent, n'est-ce pas, de leur forfait devant la justice, que ce soit la justice nationale ou la justice internationale, et que les victimes de ces crimes puissent effectivement voir qu'un jour l'État a reconnu leur souffrance, que justice a été faite à leur égard. Et ceci relève évidemment, en ce qui concerne le dossier dont nous parlons maintenant, de la nécessité d'une bonne collaboration et d'une coopération effective entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale. Évidemment, il faut rappeler que la MONUSCO peut avoir un rôle à jouer, parce que l'on se souviendra que lorsque le mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda avait été lancé en 2006, il y avait une requête du gouvernement en mai 2007 sollicitant la MONUC à l'époque de pouvoir lui prêter assistance pour l'arrestation de Bosco Ntaganda. Malheureusement, le processus n'a pas pu aboutir. Vous savez que même pour les autres qui sont au jour d'aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, notamment le seigneur de guerre de Ituri, leur transfert a bénéficié en fait du concours de la MONUSCO ou de la MONUC à l'époque pour pouvoir sécuriser, n'est-ce pas, ce transfert. Donc il est important, à mon avis, en vertu de l'accord qui avait été signé entre la Cour pénale internationale et la MONUC à l'époque en novembre 2005, c'est la MONUSCO effectivement donc aider la République démocratique du Congo à pouvoir procéder à l'arrestation de ceux qui sont sur le coup de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et sécuriser ainsi leur transfert.
Donc, nos auditeurs, en se posant autant de questions, parce qu'il y a même d'autres qui estiment que, en fait, Bosco Ntaganda n'est qu'un exécutant et qu'il y aurait d'autres personnes qui sont en train de l'armer, qui sont en train de le pousser. Est-ce que vous pensez qu'au cours d'un procès, on pourrait remonter la filière?
Oui, mais je pense que cela n'exonère pas la responsabilité de celui qui exécute. Même s'il y a un commanditaire, et comme vous le savez, en droit, et particulièrement aussi dans le statut de Rome, l'exécutant, tout comme le commanditaire, sont des complices et des co-auteurs. Il y a des auteurs qui sont des auteurs matériels, il y a des auteurs qui sont aussi des auteurs intellectuels. Et tous sont des criminels. Une fois qu'ils tombent sous le coup de disposition du statut de Rome, et qu'il y a des mandats qui sont livrés à leur encontre, tous ils doivent répondre, n'est-ce pas, de leur forfait devant cette juridiction. Prenons dans le cas de la demande qui vient d'être formulée, que dit le procureur? Le procureur dit il se réfère aux conclusions, n'est-ce pas, du jugement qui vient d'être prononcé contre Thomas Lobanga. Évidemment, on doit dire que ce n'est pas les conclusions de ces jugements qui doivent, je dirais, préconiser le lancement ou la demande d'un nouveau mandat, mais c'est plutôt des faits qui ont été commis ou qui sont supposés avoir été commis par l'intéressé, qui doivent donc, n'est-ce pas, être à l'origine, n'est-ce pas, des mandats qui pourront incessamment lui être lancés, à part le mandat qui avait déjà été en 2006.
Nous allons bientôt terminer cette émission. Nous allons écouter Jean qui travaille à tout ça, et je vais soutenir certains messages avant que nous puissions clôturer cette émission.
Parole aux auditeurs.
Question de Goma, tant que le suspect est sous la protection des autorités congolaises, le bureau du procureur de la CPI peut lancer même plus de 100 mandats d'arrêt, ce qui sera toujours sans effet. D'après moi, il faut que la communauté internationale s'implique dans cette affaire, notamment les États-Unis d'Amérique,
suis clairement pour arrêter ce dernier. S'ils vont crier, sinon ils pourront crier sans résultat. Vous l'avez donné de Kisangani. Moi, je pense que la CPI, dans son formalisme classique, lancement de mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda, n'a aucun effet en faveur de la paix à l'est du pays. Pour ce faire, seules des volontés politiques assez fortes peuvent permettre de pouvoir rétablir la paix dans la région, où même il y a des forces rebelles, des groupes négatifs, tels que les Mbororo, les FDLR, les Interahamwe, qui sont encore qui n'acceptent pas de rentrer chez eux. Rien de positif en termes de paix dans la région, surtout en RDC, tant qu'il n'y aura pas une forte volonté politique. Fabrice Kiyene, pourquoi le mandat d'arrêt ne s'est pas réalisé? Il y a aussi Audrey Christian Gouedi, n'est-il pas vrai que Bosco est aux mains du gouvernement congolais, mais c'est le gouvernement qui ne veut pas livrer? Douglas Mounianya, pourquoi la RDC veut juger Bosco Ntaganda alors que le mandat d'arrêt a été lancé par la CPI? Notre invité a pu répondre à cette préoccupation. Nous prenons Jean, qui sont au Kinshasa, vous êtes le dernier auditeur, bonjour.
Oui, bonjour Marie-Chantal, bonjour aussi à l'invité et puis à Carlos.
Nous vous écoutons.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Alors, j'ai dit seulement que le problème de Bosco Ntaganda, c'est le problème de la volonté politique en place. Parce qu'en écoutant d'abord la déclaration de lui-même, et Bosco Ntaganda, c'est indésiré. Ensuite, même la défense que le parti au pouvoir fait, par rapport à cette situation, c'est resté à désirer. Maintenant, ce que nous nous proposons, c'est que le gouvernement ait cette bonne volonté pour qu'il veut le juger ici. Alors, on l'arrête alors, au lieu de le laisser trimballer dans le parc du Virunga là-bas, qu'on l'arrête, c'est que si on veut le juger en RDC, on le juge. Mais ce que nous disons est que notre gouvernement doit prendre dans une certaine mesure à être plus responsable, surtout en matière de la justice, parce que nous remarquons que si nous évoluons avec ces rythmes, on risque encore de vivre comme les années passées en matière de la justice dans notre pays.
Merci Jean. Je rappelle que vous êtes à Kinshasa. Nous redonnons la parole à notre invité, Maître Guy Mouchata. Nous arrivons ici à la fin de cette émission. Nous avons suivi l'ensemble de nos auditeurs. Nous avons lu les messages. D'une manière générale, ils sont presque tous pessimistes. Ils ne croient plus en la justice. En conclusion, Maître Guy Mouchata, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Bon, je pense que il y a une nécessité qui s'exprime à travers l'ensemble des populations, c'est celle de pouvoir avoir que la justice au Congo est vraiment fonctionnelle, que la justice est rendue. Vous savez, madame, que des millions de Congolais ont souffert des atrocités, non seulement actuellement comme on est en train de les vivre avec le cas de Bosco Ntaganda, mais aussi dans le passé. Et si le gouvernement est ensemble avec la communauté internationale qui peut aider le gouvernement à pouvoir mettre en place des mécanismes au niveau du système judiciaire pour que celui-ci soit plus fonctionnel, si le gouvernement ne prend pas à cœur ces problèmes de réforme du secteur de la justice, en tout cas je pense que l'impunité pourra alimenter l'impunité et comme nous sommes dans un processus qui s'apparente à un cycle d'impunité, on ne pourra jamais effectivement mettre un terme à ces problèmes qui gangrènent pratiquement les populations, qui gangrènent la vie nationale. Il est vraiment une nécessité extrême que le gouvernement puisse mettre la justice avant tout comme une priorité essentielle pour renforcer, n'est-ce pas, la crédibilité et le fonctionnement des institutions. Mmh. Et ceci appelle donc plusieurs mesures qui dépasse seulement le cas actuel qui est le cas de Bosco Ntaganda, qui est un cas assez pathétique. Je pense que le gouvernement doit savoir tirer les leçons pour réorienter le système donc judiciaire national vers plus d'efficacité, vers des réponses plus immédiates et des réponses adéquates par rapport aux problèmes de la criminalité, aux problèmes de violations graves des droits de l'homme qui se posent au quotidien dans les pays. De l'autre côté, il est aussi important de ne pas pouvoir ignorer, n'est-ce pas, le travail qui est fait par la Cour pénale internationale. Il est vrai que ce travail, aujourd'hui, n'est pas parfait, mais il s'agit quand même là des avancées judiciaires, parce que si ce pays n'avait pas existé, aujourd'hui, on n'aurait pas eu un jugement, par exemple, pour les crimes qui ont été commis en Ituri, on n'aurait pas eu certaines avancées dans ce secteur de lutte contre l'impunité. Mmh. Une synergie entre la justice nationale et la justice internationale me semble être la meilleure voie au jour d'aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, donner une réponse, une justice réparatrice aux innombrables victimes, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo et briser ainsi le cycle d'impunité. Mmh. Mais on sait par ailleurs aussi que la justice classique n'a pas la capacité toujours de répondre effectivement lorsqu'on est en face des millions de victimes qui dérivent par exemple de conflits armés que nous avons connus ici. Et c'est ainsi que les solutions alternatives que propose la justice transitionnelle, notamment avec des mesures, des réformes du secteur sécuritaire, des réformes de la justice, notamment aussi avec des mesures qui concernent la recherche de la vérité, notamment aussi avec des mesures qui prennent en compte un certain nombre d'éléments pour faire des mémorialisations qui aident à pouvoir dire plus jamais de tels crimes dans notre espace. Je pense que c'est cet ensemble et cet aéropage de mesures qui permettrait, je dirais, de manière définitive, à ce que l'état des droits soit vraiment effectif et réel à notre pays.
Merci beaucoup, Maître Guinouchata. Je rappelle que vous êtes chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Je vous dis également merci à tous les auditeurs. Nous allons nous retrouver demain. Grève des chauffeurs des transports en commun à Kinshasa. Ils se plaignent des tracasseries dont ils sont victimes. Du coup, à Kinshasa, il y a une pénurie de transports en commun. Que faut-il faire pour améliorer les transports en commun à Kinshasa? Vous pouvez réagir dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet pa@radiosapi.net. Merci à toute l'équipe et à demain. Thank you.